Donc, on va regarder un petit peu plus en détail ce texte que Olivier a lu tout à l'heure. Je voulais un petit peu plus loin parce que je vais aller jusqu'au verset 14. Je crois que c'est toujours bien d'essayer d'avoir la vue d'ensemble. Donc, je reviens à chaque fois pour parler de ça parce que, comme j'ai dit, on est à notre 21e message sur Romains. Et on a vu d'abord au chapitre 1 à 4 comment nous pouvons être sauvés malgré notre péché. Donc, et à la fin donc, de Romains 4, verset 25, il y a les mots que Jésus est ressuscité pour notre justification. Donc voilà, on arrive à la conclusion de ces quatre premiers chapitres. La justification, qui est un terme juridique et qui veut dire déclarer juste, devant le tribunal, déclarer juste. Et nous l'avons vu que ce n'est pas parce que nous sommes justes en tant que tels, mais parce que Christ a accepté à notre place la condamnation que nous méritons. Et à partir du chapitre 5, Paul commence à aborder ce que j'ai appelé le fruit de la justification. On en a vu deux au chapitre 5. Le premier fruit, c'est du verset 1 au verset 11, c'est la réconciliation avec Dieu. Donc, cette partie qui dit que, alors que nous étions ennemis, Christ est mort pour nous. Donc, à partir du moment où nous sommes déclarés justes, on a une relation avec Dieu parce que nous sommes réconciliés. Et la deuxième partie du chapitre 5, Paul a mis l'accent beaucoup plus sur un autre fruit de la justification, c'est que nous avons la vie éternelle à partir du moment où nous sommes réconciliés avec Dieu. Donc, je lis le tout dernier verset du chapitre 5. Ainsi, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc voilà le fruit de la justification. Là aujourd'hui, on va passer au chapitre 6. Et ce chapitre 6 aborde une autre question. Il y a une sorte de reproche qui est fait à Paul, aux chrétiens, qui se trouve au verset 1. C'est donc, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et dans d'autres textes, Paul dit, comme certains de nos adversaires le prétendent. Est-ce que ça veut dire, parce que nous sommes pardonnés et justifiés, en quelque sorte, on peut dire, l'adversaire du christianisme pourrait dire, bah, vous avez péché, c'est pas grave, le pardon est là. Vous pouvez pécher, c'est pas grave. Il y a certains hérétiques au cours de l'histoire qui ont même dit, bon, à partir du moment où vous êtes en relation avec Dieu, avec votre esprit, ce que vous faites avec votre corps, c'est pas grave, hein. Il y a même des gens qui ont poussé jusque-là. Mais sans pousser jusque-là, je dirais que le propre presque de toute religion, c'est de refuser la grâce. Parce que la religion, c'est de mettre en place des choses, des actes, des rituels, des pratiques, pour permettre à l'adhérent, en quelque sorte, de se dire, j'ai fait ce qu'il fallait pour mériter la faveur de Dieu. Mais on sait très bien que la grâce, c'est la faveur imméritée, non méritée. Donc, et je pense que dans ce sens-là, la grâce, donc j'ai dit que c'était le thème de notre culte du soir tout ce trimestre, la grâce, c'est la spécificité biblique. Donc, je vais lire un texte de Nouveau Testament et un texte de l'Ancien Testament. Et on le met même dans le cadre spécifique du texte d'aujourd'hui. Certes, nous sommes sauvés par la grâce. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc Tite chapitre 2, versets 11 et 12. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a avec la condition de la foi, la grâce a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est la grâce qui nous enseigne de faire ça. Pour les gens autour de nous, c'est complètement le contraire. C'est la loi qui fait ça. Pour empêcher les gens de faire des choses, il faut faire des lois. Il faut voter de plus en plus de lois et de décrets et de ci et de cela. Ça devient extrêmement complexe. J'ai lu une fois d'ailleurs que je crois que depuis 20 ans en France, on a voté plus de lois que depuis 1789 et jusqu'à il y a 20 ans. On fait de plus en plus de lois parce qu'on pense que ça va empêcher les gens de faire de mauvaises choses. Ça peut contribuer peut-être, mais ce n'est pas le salut et la grâce de Dieu telle que la Bible le conçoit. C'est la grâce qui nous enseigne, par reconnaissance en quelque sorte, à vivre comme Dieu le voudrait. Mais pour insister que ce n'est pas que dans le Nouveau Testament, je vous cite un verset ou deux versets dans les psaumes, le psaume 130. Le psaume 130, je lis les deux versets 3 et 4. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Il y a même un chant qui le dit. Hein? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Voyez bien l'ordre. Il y a d'abord le pardon, la grâce, et cette grâce nous apprend à craindre Dieu dans le bon sens, à mettre en pratique ce qu'il voudrait. Donc, c'était tout ça en quelque sorte en guise d'introduction, parce que Paul va développer au chapitre 6 deux raisons pour dire que le chrétien ne va pas dire facilement « Ah, je suis pardonné, je fais ce que je veux. De toute façon, je suis à lui, je suis pardonné. » Il y a deux raisonnements. Ce n'est pas à l'écran, ce n'est pas grave. Les deux raisonnements, c'est que jusqu'au verset 14 du chapitre 6, il fait appel au baptême, et du verset 15 jusqu'à la fin, il parle de l'esclavage. De qui sommes-nous esclaves? Donc ce matin, on va voir la première chose, où l'apôtre se base sur le baptême. Je ne vais pas relire tout le texte parce que Olivier l'a lu tout à l'heure. Je vais juste lire les versets 12 à 14 qu'il n'avait pas lu. Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Bon, on va essayer en quelques minutes de regarder ces 14 versets pour voir pourquoi Paul évoque d'abord le baptême. Donc, le verset 2. Donc, on va lire. Donc, verset après verset, avec quelques commentaires. La première réponse est donc, loin de là, on ne va pas continuer à pécher. Pourquoi? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc, nous sommes morts. Je vais revenir tout à l'heure pour dire que dans la pratique, parfois on n'a pas l'impression d'être aussi mort que ça par rapport au péché. Mais bon, pour le moment, restons avec cette affirmation que nous sommes morts au péché, ou morts pour le péché, comme le Sommeur le dit. C'est-à-dire que, et c'est ça que Paul va expliquer, nous avons commencé une vie nouvelle si nous sommes chrétiens. Et c'est ça qui est le sens même du baptême. Donc, les versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc, de temps en temps, nous faisons un baptême ici, on a le baptistère qui est ici, donc, et puis la personne qui va être baptisée s'assoit dans l'eau, et qu'est-ce que je fais ? Parce qu'il n'y a personne en arrière. Je maintiens sous l'eau quelques minutes. Non. Je bascule en arrière, il revient. Et Paul dit, c'est ça le sens. Pourquoi baptiser par immersion, comme les premiers chrétiens le faisaient ? Parce que c'est tout le sens du baptême. Le baptême représente quelqu'un qui est comme enseveli, et qui ressuscite pour une vie nouvelle. Sachant que, et je le précise, hein, juste pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que ce n'est pas le baptême qui fait ça. C'est parce que quand on croit en Jésus, et on demande le pardon de ses péchés, que cet ensevelissement a déjà eu lieu, on va dire, on est déjà mort à notre ancienne vie pour commencer une nouvelle vie. Mais le baptême est un symbole très fort de cela pour dire, ok, j'étais avant pas chrétienne, je suis mort, enseveli, et maintenant je marche en nouveauté de vie. Et donc voilà pourquoi Paul insiste pour dire, on ne continue pas dans le péché parce qu'on a commencé une nouvelle vie. Le verset 5 parle donc du fait que c'est par la foi en Jésus et non pas par le baptême, parce que ce verset 5 souligne le fait que nous sommes en quelque sorte en Christ ou identifiés à lui. Je lis, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Donc, nous sommes attachés à lui par la foi. Donc, quand Jésus est mort et ressuscité, c'est comme si, par anticipation, nous étions déjà en lui, mort et ressuscité. Par anticipation. Par la foi en lui. Donc, ce que lui a vécu, nous le vivons avec lui. Donc, lui aussi, il est ressuscité pour vivre éternellement. Nous aussi, nous ressuscitons de notre mort spirituelle pour vivre éternellement. Mais il y a quand même la mort et la résurrection. Et c'est ça que Paul va développer maintenant dans les versets qui suivent. D'abord, la mort. Donc, versets 6 et 7 qui part du vieil homme. Et j'aime bien là la traduction du Sommeur qui dit « l'homme que nous étions autrefois ». Je trouve que c'est une bonne façon de le dire. L'homme que nous étions, la personne que nous étions autrefois, a été crucifié, comme je disais, par anticipation quelque part, avec lui. Donc je lis le verset 6 et 7. « Sachant que notre vieil homme, ou l'homme que nous étions autrefois, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on est mort, on n'est plus esclave du péché, parce que Jésus a dit, hein, celui qui commet le péché est esclave du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Et ce thème-là, il va le développer à partir du verset 15. Donc, je ne vais pas plus en parler maintenant, parce que sur la prochaine fois, on va parler du fait que nous étions esclaves du péché, mais maintenant nous devenons toujours esclaves, mais esclaves de Jésus. Serviteurs, esclaves de Jésus, qui est la liberté. Donc, il y a le vieil homme, nous sommes morts, notre corps, on a toujours notre corps mortel, mais nous sommes libérés du péché. Ça, on peut dire des fois, je me demande si c'est le cas. On tient à cette réalité, et je vais revenir à ça. Mais il n'y a pas que la mort, il y a la résurrection. Les versets 8 à 10, donc la vie nouvelle. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. C'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc, quand nous croyons en lui, il est ressuscité, comme je l'ai dit, pour la vie éternelle. Nous avons aussi la vie éternelle. Et cette vie commence dès maintenant. Donc, je cite deux versets ailleurs dans le Nouveau Testament, Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ou 1 Jean 5, 12 et 13. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc voilà, c'est à la fois le baptême comme symbole, mais symbole d'une autre réalité, c'est qu'en Christ, nous avons commencé une vie nouvelle. Maintenant, ce sont les versets 11 à jusqu'à 14, qui vont nous aider à comprendre un petit peu plus, mais comment on vit cela. D'abord, le verset 11, qui parle du regard que l'on porte sur soi-même. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Quel est le regard que l'on porte sur soi-même? Quelle est son identité? Parfois, je m'amuse en fait à dire qui je suis. Donc, je suis un homme, je suis un père, je suis français par naturalisation, je suis pasteur, je suis mari, je suis, enfin, j'ai tel ou tel caractère. Je m'amuse en fait à dire, mais qui suis-je? Mais ici, on nous demande de porter un regard sur soi-même pour se dire continuellement, je suis mort. À mon ancienne vie. Autrement, Laurie, souris. Mais maintenant, j'ai une vie nouvelle. C'est le regard que je porte sur soi-même. Et un grand prédicateur a dit une fois que toute la vie chrétienne consiste à bien se parler à soi-même, de dire des choses vraies sur soi-même. Et la chose qui est vraie ici, c'est selon la, je cite trois traductions, donc ici dans ma Bible, c'est regardez-vous comme mort au péché. Une autre Bible a dit considérez-vous comme mort au péché. La parole de vie le dit très simplement, parce que c'est une version très simple, vous devez penser ceci, vous êtes mort. En étant séparé du péché, mais en étant uni à Jésus-Christ, vous êtes vivant pour Dieu. Vous devez penser ceci. Ça, c'est la version parole de Dieu. Donc, il faut se le dire. Bon, c'est vrai que notre vieil homme, cette personne que l'on était existe toujours quelque part. Et là, je ne vais pas anticiper, mais on va y arriver dans les chapitres 7 et 8. Donc, on ne peut pas tout dire ce matin. Mais le chrétien est quand même lucide. Il sait qu'il n'est pas exempt de péché. D'ailleurs, 1 Jean. Si je l'ai mis. Non, tu peux enlever ça. Dans 1 Jean 1, il est dit, si vous dites que vous êtes sans péché, vous n'êtes pas dans la vérité. Hein. Donc, je lis, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Donc, on sait toujours, on se dit, je suis purifié, même si j'ai péché, je demande pardon, le pardon arrive, on le mesure en nanosecondes, hein, donc c'est immédiat, non pas attendre, mais je me dis quand même que ce n'est pas normal que je fais ça. J'ai trouvé une fois dans mes lectures une façon de l'expliquer qui m'a toujours aidé à comprendre. Donc c'était un Chinois, Watchman Nee, Ni To Sheng, qui l'a écrit. Et il dit ceci, quelle est sa véritable nature? Il faut se dire, quelle est ma nature? Donc il donne l'exemple du bois et du métal. Il dit, normalement, le bois flotte sur l'eau et le métal coule. Mais il se peut qu'il y ait une situation contre nature. Si l'eau rentre dans un bateau en bois, il va couler quand même. Ou si le métal est formé d'une certaine façon, le bateau va flotter. Okay. Donc, on a une nature, mais parfois on n'agit pas selon sa nature. Mais notre nature réelle, c'est être mort au péché, et maintenant on a commencé une vie nouvelle. Et si on commet tel ou tel péché, c'est pas normal, si on veut. On agit contre nature. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas dans notre monde. Parce que d'abord, ce serait contraire à tout ce que l'on vit, ce serait contraire à la parole de Dieu. Mais, comme je disais, qu'est-ce qu'on se dit en parole de vie? Vous devez penser ceci. Regardez-vous comme étant une nouvelle création. Et plus on se dit « c'est ça que je suis », plus cela nous aide à vivre une nouvelle vie, et on ne peut plus se dire, comme au début de ce chapitre, « Ah ben, on pêche pour que la grâce abonde, maintenant je suis pardonné, je peux faire ce que je veux. » Donc voilà, ça c'est le verset 11. « Regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Et puis, les versets 12 et 13 en particulier, nous montre que nous ne devons pas rester passifs. Ce n'est pas parce que j'ai une nouvelle nature que je n'ai qu'à me laisser aller quelque part. On en a parlé mercredi soir à l'étude biblique, quand Jésus a dit, en disant « Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments, sans moi vous ne pouvez rien faire. » Alors quel est le contraire de ça? Avec moi, vous n'avez rien à faire. Avec moi, vous pouvez tout faire. Et c'est surtout le deuxième. Avec moi, vous pouvez tout faire. Avec le Seigneur, on va être actif. Et je l'ai lu aussi cette semaine, une belle phrase qui dit que la grâce n'exclut pas l'effort, mais la grâce exclut tout effort pour mériter quelque chose. Donc il ne faut pas se tromper. Hein. La grâce nous enseigne à rejeter certaines choses, etc. La grâce n'exclut pas notre part, mais la grâce exclut tout effort de mériter quoi que ce soit. Et ici, donc, l'apôtre dit, « Alors que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Donc, ce que l'on désire quelque part dans notre tête. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme souvent dans la parole, il y a le négatif et le positif. D'abord, ne pas se permettre que notre corps, donc c'est notre être, hein, donc, parce qu'on vit dans notre corps se livre au mal. Ne livrez pas vos membres au péché. Vos membres, c'est quoi? Les mains, les pieds, les yeux, la langue, le cerveau. Ne permettez pas de les livrer au mal. Mais au contraire, donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, donc il insiste, hein, que vous êtes vivant, de vie nouvelle, et offrir à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc tout le temps, on a les choix. Ce que l'on fait avec notre corps. Et notre corps, c'est nous-mêmes, hein, j'insiste. Donc c'est cet effort, c'est actif maintenant de vivre ce qu'on est. Donc première chose, on se regarde, on se considère, on pense, j'ai une nouvelle nature et maintenant je vais agir avec cette nouvelle nature. Et j'arrive à la fin donc de cet exposé, le verset 14. Ah, on n'a pas, ok. J'ai pas mis le verset 14 à l'écran, c'est pas grave. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est un petit peu la conclusion de cette première partie et l'entrée en matière pour la suite de l'esclavage. Nous sommes dans la nouvelle alliance et nous n'avons pas à être soumis à la loi, parce que nous ne sommes plus esclaves du péché, mais on sera esclaves de Jésus. Donc le verset 14, c'est en fait, c'est pas important que ce n'était pas là, c'était le lien vers la suite.